Ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. Débutons avec tout simplement une petite introduction à la lecture biblique d'aujourd'hui qui sera faite dans quelques instants. Nous sommes en 750 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée. Excusez. Tout Israël est occupé. Tout? Non! Car en Juda, à Jérusalem, se trouvent des irréductibles judéens qui résistent encore et toujours à l'envahisseur assyrien. À cette époque, le royaume d'Israël est en fait divisé en deux, le nord et le sud. Et plusieurs prophètes, beaucoup quand on lit l'Ancien Testament, il faut se poser la question de est-ce que c'est un prophète du nord ou du sud? Parce que plusieurs prophètes vont annoncer la destruction du royaume du nord, justement parce que le peuple d'Israël va constamment délaisser l'Éternel pour se tourner vers des pratiques qui sont horribles aux yeux de Dieu. Et les prophètes vont dire au royaume du Nord, « Si tu ne te repens pas, je vais prendre des nations, je vais te détruire. » Ésaïe écrit dans le royaume du Sud, et en 721, Sennachérib, roi d'Assyrie, va descendre et va complètement détruire le royaume du Nord. Il ne restera que Juda. Quand on parle d'Israël, à partir d'un bon moment, à partir de 721, ce sera que Juda qui demeure. Sennachérib tourne son attention vers Juda, Jérusalem, arrive avec ses nombreuses armées jusqu'aux portes de Jérusalem. Il fait un siège sur la ville et il commence à créer une guerre psychologique avec les peuples. Il arrive en avant et dit, il fait la liste. Écoutez-moi! Il fait la liste. Voici la liste des peuples et les noms des dieux qui n'ont pas pu protéger leur ville que nous avons détruite. Les Israélites sont là, ils ont peur, mais la Bible nous rapporte qu'en un soir, l'ange de l'Éternel est sorti et a tué 185 000 soldats dans l'armée de Sennachérib. Sennachérib ne détruira pas Jérusalem. Et c'est une chose extraordinaire, justement, c'est que c'est un fait aussi que l'on retrouve dans la littérature extra-biblique. C'est-à-dire, on a des preuves à l'extérieur de la Bible que Sennachérib est arrivé jusqu'à la porte de Jérusalem, et que de nombreuses personnes dans son armée sont décédées. Israël se pète les bretelles. Nous sommes tellement formidables. Nous avons Dieu, nous avons le temple, nous sommes le peuple promis. Et c'est dans ce contexte que Ésaïe va leur dire, « Attention, parce que certaines de vos pratiques sont aussi pires que celles du royaume du Nord. Et si vous ne vous repentez pas, Dieu fera la même chose avec vous. » Et Ésaïe, et c'est une des choses les plus extraordinaires du livre d'Ésaïe, c'est un des livres les plus longs de l'Ancien Testament. On va même l'appeler le proto-évangéliste, donc un des quatre évangélistes, c'est le cinquième avant son temps, tellement il va parler de l'Évangile et de qu'est-ce qui vient. Mais Ésaïe, des centaines d'années auparavant, va non seulement nous annoncer la venue de Jésus-Christ, mais va aussi dire « le peuple va continuer de se rebeller, le peuple va être détruit et déporté ». Pendant une longue période, il y aura un retour de ce peuple-là. Et après ça, il nous parle d'un ère messianique où la paix et la justice seront là. Et donc, Ésaïe est un personnage vraiment très intéressant. On pourrait en parler pendant longtemps. Mais dans la dernière section du livre, d'où la lecture est sortie aujourd'hui, se retrouve ce qu'on appelle les chants du serviteur de l'Éternel, qui parle d'un personnage, on ne sait pas toujours c'est qui, on le verra un peu, mais qui est ce personnage, serviteur de l'Éternel, eh bien, j'invite Mme Rondeau à venir faire la lecture.
Donc, le passage de ce matin est tiré de la nouvelle édition de Genève, dans Ésaïe 52, le verset 12 à 14, et tout le chapitre 53. Donc, Ésaïe 52, 12 à 14, on commence là. Verset 12. « Ne sortez pas avec précipitation. » Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables.
Amen. Vous savez, l'exercice que Yannick nous a envoyé est un exercice intéressant. C'est-à-dire, il nous a dit, les gars, prenez 4 versets qui résument le salut dans son ensemble. Et on était 3, on était René Fré, moi-même et Miguel. Et quand j'ai reçu l'invitation, j'étais en vacances à l'île du Prince-Édouard. Puis là, je me suis dit, ah, c'est intéressant. Alors, il dit, trouvez chacun 4 versets. Alors, Miguel envoie ses 4 versets. Je travaille un peu, j'y envoie mes 4 versets. Et c'est là qu'on voit un homme d'expérience, un pasteur qui a plus de 30 ans d'expérience dans le ministère. René nous en a envoyé 30. Alors, Yannick a dû dire, « Monsieur Fré, René, ça serait bien quand même d'en avoir 4. » Mais c'est un exercice intéressant. Et donc, la semaine dernière, René nous a parlé de cette idée qu'il y a nul qui est bon, nul qui peut dire, « Moi, là, je l'ai l'affaire, je n'ai aucune faute. » Aujourd'hui, on regarde un deuxième aspect qui est particulièrement aussi important, qui s'appelle « prophétie ». Ça, on aurait pu sortir avec un slogan, quelque chose comme « Il est né dans une étable, mais confondra les rois et les nations. » Mais le fait quand même que cette thématique du salut de l'humanité, il y a une question qui nous vient, que les gens vont vous poser dans vos voisins, vos amis, vos collègues. Comment est-ce qu'on sait qu'il faut même être sauvé? Une de mes anciennes voisines a mis sur Facebook dernièrement cette prochaine image, puis ça m'a fait sourire et ça m'a fait réfléchir. Voici la preuve que Dieu existe, parce que la Bible dit que Dieu existe. Voici la preuve que Allah existe, et le Coran est la preuve que Allah existe. Et voici la preuve que M. Chatouille existe, parce que M. Chatouille parle de M. Chatouille. Qu'est-ce qui différencie Jésus de M. Chatouille? La question semble bizarre, parce que mais là, on est dans une église. Oui, mais personne qui n'est pas dans une église là, puis qui ne croit pas en Jésus, là. Jésus est au même niveau que le lapin de Pâques, que le Père Noël. Et là, tu dis, bien, M. Chatouille, mais il faut des preuves. Peux-tu me prouver que c'est vrai? Si je commence à faire, je dis, regardez bien, je vais vous donner une preuve. Je regarde Luigi, je commence à le faire voler dans le ciel. Là, vous allez dire, il doit y avoir un truc. Mais justement, on peut truquer des choses. Alors, juste d'avoir, de montrer quelque chose d'extraordinaire n'est pas assez. Et c'est justement là que l'importance des prophéties entre. Le Nouveau Testament est très lucide. Les chrétiens sont très lucides, pas sur tout, là, mais sur plusieurs choses. Mais sur une chose, l'apôtre Paul va dire, si Jésus n'est pas historiquement et physiquement revenu d'entre les morts, la foi chrétienne vaut absolument rien. S'il n'y a pas un personnage qui s'appelle Jésus de Nazareth, ou Yeshua ben Joseph, comme il était appelé à l'époque, qui a vécu, qui est mort, qui est ressuscité le troisième jour, qui est apparu à ses disciples, le christianisme ne vaut rien. Cette semaine, je voyais dans un reportage sur l'Église unie. C'est une Église qui, historiquement, croyait quelque chose, qui, malheureusement, ne croit plus à grand-chose. Et il y avait un cas assez particulier d'une pasteur athée. Et l'Église unie se posait la question s'il fallait la destituer. Et la question allait prendre des mois. Et la première question que l'enquête lui a posée, c'était « Est-ce que tu crois en un Dieu ?» Père, Fils et Saint-Esprit. Et le pasteur athée dit non. Mais ça va quand même prendre des mois. Mais l'apôtre Paul dit non. Il dit, mais ce qui me fascine, c'est combien de gens croient en Dieu et que ça ne change absolument rien dans leur vie. Mais à quelque part, l'apôtre Paul est lucide et dit, hey, si c'est faux, va faire autre chose. Et l'alternative de Paul, il cite un prophète épicurien de son temps, donc un philosophe, qui dit « Mangeons, si Dieu n'existe pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Si Dieu n'existe pas, trouvons autre chose. Ça vaut même pas la peine de garder le christianisme pour ses valeurs, nous dit l'apôtre Paul. La Bible nous parle, particulièrement dans un contexte de procès ou de prouver quelque chose, qu'il est important d'avoir deux ou trois témoins. Mais justement, c'est ce qui nous est fourni dans la Bible. Vous savez que le premier prédicateur d'une série met le ton pour comment se donne la série, et René a inséré un chant quelque part, et là je lance le défi à Miguel de continuer après, mais il y a un chant qui nous fait réfléchir. Vous le connaissez tous. Même si c'est la première fois dans ta vie que tu mets tes pieds dans une église. Il y a plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Tous ensemble. Il y a plus de 4000 ans, nous l'attendons. OK, bon, ça fait longtemps que Noël n'est pas là, mais... Donc, Miguel, tu vas trouver quelque chose la semaine prochaine. Mais le fait est qu'effectivement, il y a plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Et là, il commence à avoir plusieurs arguments. Si je suis capable d'annoncer des centaines d'années auparavant, même des milliers d'années auparavant, non seulement des faits un peu vagues, mais tout ce qui va être décrit sur les différents empires qui vont succéder, Babylone et la Syrie, Babylone, les Perses, etc., il y a quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il y a une seule personne qui est capable de pouvoir prédire l'avenir, c'est celle qui la voit. Et c'est une des choses que Dieu va te dire en Ésaïe. Les autres divinités, là, prédisez donc l'avenir avec détail et sur des centaines d'années auparavant. Donc, il y a des prophéties, il y a la vie miraculeuse de Jésus et sa résurrection, et il y a aussi une autre évidence qu'on ne regardera pas aujourd'hui, mais qui est cette idée des vies transformées. Encore aujourd'hui, quand les gens rencontrent Jésus, le ressuscité, leur vie sont transformés. Des prophéties des centaines d'années auparavant, l'arrivée du Fils de l'homme, sa mort, sa résurrection et ses miracles, et aussi le fait qu'il transforme encore 2000 ans plus tard des vies aujourd'hui. Notre passage d'Ésaïe 53 est probablement le passage le plus important, mais aussi le plus controversé de tout l'Ancien Testament. Et particulièrement dans nos discussions avec les Juifs, Et pour illustrer ça, on va voir une petite histoire dans le Nouveau Testament, hein, d'un fonctionnaire éthiopien, qui travaille pour le gouvernement Éthiopie, et il revient de Jérusalem, il a assisté à une fête religieuse où il a acheté des rouleaux du Tanakh, qui est l'Ancien Testament hébraïque, et il va lire les prophètes, et il est sur son char, ça va pas vite, là, il avance à dos d'âne ou à cheval, il est sur son char, il est en train de lire Ésaïe 53. Un peu plus tôt cette journée-là, Philippe est à Jérusalem, il est Jerusalem City. Il se passe plein de choses extraordinaires et le Saint-Esprit va dire à Philippe, « Va-t'en dans le désert. » Ouais. Il ne sait pas pourquoi, il s'en va dans le désert et sur la route, il voit un char et le Saint-Esprit lui dit dans Acte 8, « Approche-toi de ce char. » Ici, je lis, « Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. » Philippe lui pose la question, « Comprends-tu ce que tu lis? » Et l'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? » Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. On saute la citation d'Ésaïe. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et l'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Ce qui est particulièrement intéressant de voir ici, c'est qu'à partir d'Ésaïe 53, il a parlé de Jésus-Christ, du pardon des péchés, de mettre sa confiance en lui, au point que quelques temps après, il dit, « On voici de l'eau, qu'est-ce qui empêcherait? Je crois, qu'est-ce que tu dis? J'ai été convaincu. » Dans le passage qui nous intéresse particulièrement, c'est en Ésaïe 53, 5. On a lu tout le passage, mais on va s'arrêter à ceci. Le passage commence ainsi. « Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. » Si on est dans une foule, puis à la fin du culte, vous êtes en train de sortir, puis je dis « Attrapez-le! » Bien là, on va se poser une question, OK, qui est-ce qu'on est supposé attraper? Bien, effectivement, quand on lit le texte, mais lui, ce que ça nous dit, c'est bon, il faut peut-être chercher un peu plus haut dans le texte pour voir c'est qui lui. Mais quand on regarde le passage un peu plus haut dans le texte, au verset 2 par exemple, « Car devant l'Éternel, il a grandi. » Mais le début du chapitre ne nous dit pas du tout qui est lui. Et c'est la raison pour laquelle on a commencé au chapitre 52. Vous savez, les chapitres, les numéros de chapitres et les versets dans les Bibles ne sont pas originaux au texte. C'est-à-dire, quand Ésaïe écrit, c'est pas là qu'il met chapitre 1, verset 2. C'est quelque chose qu'on a ajouté par la suite. C'est un système de classification pour retrouver les passages quand on est ensemble dans une communauté. Ce qui veut dire que parfois, ceux qui ont codifié les chapitres et les versets ont pas nécessairement, sont pas inspirés du fait de dire, mais bon, le chapitre commence au verset 12 de chapitre-là ou au verset 2 de l'autre. Et donc, des fois, il faut, quand vous lisez un chapitre de la Bible, puis que ça commence en disant, mais lui, mais lis l'autre d'avant, parce que la ligne, l'idée continue. Et même quelque chose qui est intéressant, si vous voulez essayer ça des fois à la maison, ouvrez un site web biblique, imprimez les feuilles. Il y a des sites qui ont les versets et les chapitres de la Bible sans les versets. Et amusez-vous à lire et vous allez voir que des fois, quand tu enlèves les chapitres et les versets, tu vois plus facilement les idées. Donc, un petit truc, vous pouvez le faire avec Ésaïe 52, 53. Mais qui est lui? Mais Ésaïe 52, verset 13, nous dit ceci. « Voici mon serviteur agira sagement. Il sera exalté et élevé et placé très haut. » Ça, c'est déjà quelque chose qui est étrange pour un juif. Même chose dans Daniel chapitre 7, on a l'Ancien des Jours, qui est l'Éternel, qui a à côté de lui le Fils de l'homme. avec qui il partage sa gloire. Et c'est un personnage qui a mystifié les Juifs pendant longtemps parce qu'il dit « Dieu ne partage sa gloire avec personne ». Qui est donc ce personnage du Fils de l'homme? Alors ici, on a un personnage qui est le serviteur de l'Éternel. Il sera exalté et élevé et placé très haut, comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant, tellement son visage était plus défait que celui d'aucun homme et sa forme plus que celle d'aucun homme. Il va porter les souffrances, les péchés de l'humanité. Il va être déformé au travers des coups de fouet, au travers de tout ce qu'il va recevoir. Qui est le serviteur souffrant? Les Juifs avaient un problème. C'est-à-dire qu'ils ont toujours pas mal été, ils ont eu un roi, au temps de roi David, Salomon, tout allait bien. Mais après ça, tout a commencé à aller mal. Et ils ont commencé à se diviser en deux. Le royaume n'a plus jamais été assez grand. 721, Sennachérib vient détruire le royaume du Nord. En 587, c'est Nebuchadnezzar qui va venir détruire Jérusalem. C'est en temps du prophète Daniel. Et ils vont partir exilés à Babylone pendant 70 ans. Une partie d'entre eux seulement vont revenir. Ils reviennent à leur pays, il y a des gens dans leur maison. C'est un peu comme si tu pars pendant l'été, tu reviens chez vous, puis il y a quelqu'un qui regarde ton cinéma maison. Là, tu te dis, mais là, qu'est-ce que tu fais là? « Ah, oh, bien, t'es parti. » Et là, vous imaginez, donc, entre ceux qui sont restés, les Samaritains, entre autres, ceux qui vont partir et reviennent, et là, ça crée des chicanes. La ville, une partie de la ville est détruite. La muraille est détruite. Le temple est détruit. Et donc, ça va pas bien en Israël. Et même le second temple qui va être reconstruit n'est pas aussi extraordinaire que le premier. Où est Dieu? Il nous a promis un retour d'exil avec vraiment les nations qui vont quasiment être à nos pieds, un royaume de paix et de justice, et c'est pas encore arrivé. On attend Meshaya Rambo. Pour eux, et c'est pour ça, quand les zélotes sont là, ils disent, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir ton royaume? Eux, ils regardent les Romains, là, puis attends, ils voient ça tout sauter, là. Les gars, quand ton royaume sera établi, est-ce que moi je peux être à ta gauche, puis moi je peux être à ta droite? Les gars, mon royaume n'est pas de ce monde. Les premiers seront les derniers. Ouais, c'est pas grave ça là. Qui va être à ta gauche? Qui va être à ta droite? Dans Gethsémané, on vient chercher Jésus. Pierre, il a son épée proche. Il sort son épée. Coupe l'oreille du centurion. Il est un peu plus zélé dans ma version. Coupe l'oreille. Et moi, ça m'a toujours fasciné, ce passage-là. Parce que j'imagine vraiment Pierre et surtout le gars qui se fait couper l'oreille. Et tout d'un coup, Jésus, il arrête. Pierre dit, non, c'est pas comme ça, mon royaume. Puis il s'approche du centurion. Il met la main sur l'oreille. Puis le gars, il est comme, un, deux, trois. Il y a quelque chose d'étrange. Wow! Cette présence-là de Jésus de Nazareth, il a fait des miracles, il y a des milliers qui l'ont suivi. Et dans son heure la plus noire, tout le monde va l'abandonner, sauf l'apôtre Jean. Pierre va le renier trois fois parce qu'ils sont là, tout leur espoir d'un Messie triomphant viennent de tomber. Les Juifs ne réalisent pas, ou plusieurs d'entre eux ne réalisent pas, que le Messie doit venir souffrir. Puis ils ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie parce qu'il ne vient pas à Arnold Schwarzenegger, I'll be back. Il vient plutôt comme un homme qui lave les pieds de ses disciples, qui aime la veuve et l'orphelin, qui passe du temps avec les gens de mauvaise vie pour leur dire et leur montrer la grâce de Dieu. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un groupe d'Esséniens, c'est un des groupes de Juifs à l'époque de Jésus, qui trouvait que les Juifs et même ils trouvaient que les pharisiens n'étaient pas assez stricts. Fait qu'eux, ils ont été dans les montagnes, puis ils vivaient dans, ils ont un genre de monastère, puis ils se sont dit, nous, on va être tellement saints que le Seigneur va venir nous chercher. Mais les Esséniens voyaient en Ésaïe 52 et 53 deux messies à venir. Fait que c'est intéressant de voir que quand même au travers de l'histoire des Juifs, certains vont voir cette idée d'un Messie souffrant. Des fois, on parle avec un Juif, et particulièrement depuis le Moyen Âge, on va dire, « Ah non, mais le serviteur souffrant, c'est Israël. C'est le peuple d'Israël. » Et les Juifs, un ami Juif peut te dire, « Ça parle pas du tout de Jésus, voyons donc. Ça, c'est juste les apôtres, les chrétiens qui voulaient embarquer les gens dans leur religion. Ils ont changé des affaires. Voyons donc. Et parfois, dans Ésaïe et ailleurs, Israël est appelé le serviteur. Sauf qu'on va voir dans ce temps-là, dans le texte, des choses qui s'appliquent à la nation. Alors qu'ici, très clairement, le texte s'applique à un individu. Alors, la question qui nous vient, les plus vieux juifs, dans le sens les écrits les plus anciens que nous avons, des juifs, ils disent quoi? Très étonnamment, pour un juif peut-être, un des plus vieils écrits que l'on a, c'est le Targum Jonathan. C'est-à-dire, c'est un genre, un Targum, c'est un commentaire biblique inséré dans le texte. On fait un peu ça des fois quand on prêche, on raconte une histoire, puis on rajoute un élément, puis là, il est parti du texte, il vient d'expliquer. Mais c'était ça les commentaires juifs, ils s'appelaient les Targum. Et ce qui est intéressant, c'est que le Targum Jonathan, qui est une des plus vieilles sources juives sur Ésaïe 53, va voir dans Ésaïe 53 une référence au Messie. Mais le commentaire de ce Targum-là était « ne veut pas voir le Messie souffrant ». Et au lieu de dire « il s'est chargé de nos souffrances », ça s'est sorti par « il va faire souffrir les nations ». Mais quand même intéressant que le plus vieux Targum va voir en Ésaïe 53 une identification du Messie. Et étonnamment, beaucoup de Juifs vont aussi voir au travers de l'histoire jusqu'au Moyen Âge l'idée que c'est attribué à un individu. Et même dans les années 1990, un groupe de Juifs a cru que le Messie était arrivé et utilisait Ésaïe 53 et l'attribuait à un rabbin dans les années 90. Donc, l'idée de dire que le texte parle de qui? Mais le texte parle d'un individu qui viendra, de la perspective d'Ésaïe qui écrit à peu près 750 ans avant que Jésus vienne. C'est aussi Ésaïe qui dira, « Car voici un signe, la jeune fille, la Vierge sera enceinte, elle aura un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ouais, mais là, Jésus, là, il s'appelle Jésus, il ne s'appelle pas Emmanuel. Ah ah! Moi, je m'appelle Jean-Sébastien, mais au secondaire, pour des raisons que je n'irai pas ici, on m'appelait Bob. On a des surnoms dans nos vies, on a des choses qui sont dites. Et une des choses, c'est Emmanuel veut dire quoi? Dieu avec nous. Qu'est-ce qui veut dire Dieu avec nous? Et c'est là une des surprises. Et dans Ésaïe, chapitre 9, ce fils, car un fils nous a été donné, c'est-à-dire, quel est ce fils? On l'appellera Dieu Saint, Père Grand, Dieu Puissant. Mais comment est-ce qu'on peut appeler ce fils qui vient Dieu, Père? Quelque chose qui ne marche pas, là. Emmanuel, Dieu avec nous. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Le mot « transpercé », parce que certaines versions, il a été blessé, mais le mot peut être traduit par blessé, ou le mot peut être traduit par transpercé aussi. Ce qui est particulièrement intéressant dans le cas de Jésus, parce que ça a été le cas. Et en Apocalypse, chapitre 1, verset 7, on a ceci. « Au jour où il reviendra, tout œil le verra, celui qu'ils ont transpercé. » Dans un de mes passages favoris en Ézéchiel, il est dit ceci. Le problème de l'homme est qu'il se prend pour Dieu. Et Dieu pose une question. Devant la mort, diras-tu encore, je suis Dieu? Tu seras homme et non Dieu devant celui qui te transpercera. Ben, effectivement, tu peux te prendre Dieu pendant toute ta vie, mais le jour où tu meurs, tu as la preuve que tu ne l'es pas. Mais il y en a justement un qui peut dire devant la mort et devant le fait qu'il a été transpercé, « Je suis Dieu, car il reviendra celui qu'ils ont transpercé. » Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Qu'est-ce que le péché? Il y a plusieurs définitions qu'on pourrait donner au péché. Mais dans ce passage, il y a l'idée que c'est un crime. Le péché est un crime. Et nous sommes des criminels. Que tu aies volé 20 $ dans la petite caisse ou que tu aies volé 1 million de dollars, tu es un voleur. Jésus nous dit, René en a parlé la semaine dernière, si tu, dans ta tête, tu convoites la femme de ton prochain, c'est comme si tu l'avais déjà fait. Tu es déjà un criminel aux yeux de Dieu. Pour qu'il puisse y avoir des criminels, il faut qu'il y ait un code criminel. Si les policiers ne donnaient jamais de contravention, on verrait aucune utilité à suivre le code de la route, outre de ne pas mourir. Mais donc, pour qu'il y ait un code criminel. Pour qu'il y ait des pécheurs, il faut qu'il y ait à quelque part un code de c'est quoi le péché. Et ça, ce n'est pas nous qui peuvent décider c'est quoi le péché. Ouais, mais je suis pas si pire que ça. Mais si même là, quand tu étais jeune, tu avais quelque chose de pas trop cool, puis tu as un casier, puis tu veux passer la frontière pendant les vacances de construction pour aller aux États, est-ce qu'ils vont te laisser rentrer? Non. Too bad, tu as un casier. Ouais, mais j'ai fait un graffiti sur un mur, là, je vais pas faire sauter les États-Unis. Il a dit bombe! Non. Mais. Non, mais t'amènes un fruit aux États-Unis, c'est un crime. Il court après. Mais le fait est que c'est pas nous qui décidons, mais on a besoin d'une porte pour protéger. On ne dirait pas que les États-Unis sont un monde de paix et de justice, là, mais imagine ça, imagine tu meurs, t'arrives au ciel, et Pierre te montre ta maison, puis il te donne les clés, puis il n'oublie pas de barrer la porte. C'est comment ça? Il dit, on est au ciel, un monde de paix et de justice. Oui, mais on a laissé rentrer tout le monde. Ben c'est exactement ça le problème. On a laissé rentrer tout le monde. On ne peut pas laisser rentrer tout le monde et encore avoir un monde de paix et de justice. Je ne peux pas laisser rentrer un criminel dans mon monde de paix et de justice, à moins qu'il ait été racheté, que sa faute a été payée. Mais non seulement ça, il faut aussi que j'aie été transformé. Parce que si quelqu'un va en dedans à ma place, oui, la dette à la société est payée, mais si je ne suis pas transformé et je suis encore un meurtrier, ça ne marche pas. On le prie chaque jour, notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans ma vie. Réalisez-vous que quand on prie au Seigneur de que son royaume vienne, c'est qu'il vienne aussi dans notre vie, qu'il nous transforme. Pardonne-nous nos péchés, nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le Notre Père, là, si vous regardez bien, là, c'est la prière du chrétien qui désire être transformé et qui désire transformer le monde à l'image du monde de paix et de justice qui viendra un jour. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. La paix. C'est quoi la paix? Les Juifs vont nous dire, regarde, ouvre ta fenêtre puis regarde dehors. Puis s'il n'y a pas la paix dans le monde, le Messie n'est pas venu. Pas de shalom, pas de Messie. Paix, shalom en hébreu. Et le concept du shalom est important pour les Juifs. Et j'aimerais vous proposer 49 sens du mot shalom. Non, joke, juste 7. J'aimerais vous proposer 7 sens rapidement du mot shalom, le châtiment qui lui donne la paix. Mais premièrement, la paix, quoi? La paix avec Dieu. Dieu vient sauver des ennemis. Romains 5:1 nous dit « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Une bonne image de qu'est-ce que c'est un pécheur dans un monde de paix et de justice, c'est un terroriste qui met des bombes. Si tu ne travailles pas pour le monde de paix et de justice, tu es en train de travailler contre un monde de paix et de justice. C'est comme le gars qui disait « Ah, j'ai finalement trouvé l'Église parfaite. Elle ne rentre pas, elle ne va plus l'être. » Le fait est que même, on est peut-être un petit terroriste, mais même un petit terroriste fait du dommage. Dieu nous dit « T'es déclaré juste, tu as la paix avec Dieu, d'une relation qui est possible avec Dieu. » On ne réalise pas ceci, mais l'idée de la paix vient aussi avec... C'est quoi le contraire de la paix? La guerre. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Mais l'idée, c'est qu'il y a vraiment une thématique guerrière dans la Bible. Et le shalom est lié avec cette idée d'une guerre. Fait qu'il vient sauver des ennemis. Alors que nous étions encore ennemis de Dieu, alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Deuxième chose qu'il vient faire, il vient juger ses ennemis et restaurer la paix. On l'a en 2 Thessaloniciens, l'idée, il vient pour juger tous ceux qui n'ont pas obéi à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a des gens qui vont dire, oui, je veux faire la paix avec Dieu, et des gens qui vont dire, non, je veux pas faire la paix avec Dieu. Mais pour avoir un monde de paix et de justice, je ne peux pas laisser rentrer tout le monde, il doit aussi venir juger ses ennemis et amener la paix, forcer la paix dans un certain sens. Troisième idée, il soumet le monde démoniaque derrière son chariot de victoire. En Colossiens chapitre 2, il y a cette idée que par qu'est-ce que Jésus a fait à la croix, il est comme Jules César dans son chariot victorieux qui traîne ses ennemis derrière lui et il traîne les dominations, les principautés qui sont des mots pour les forces démoniaques. Dieu vient détruire les forces des ténèbres. On l'a en 1 Jean, car le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Quatrième chose, il annonce maintenant la venue du règne de Dieu, le monde de paix et de justice. En 2 Pierre, chapitre 2, verset 13, « Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tâche et irréprochable dans la paix. » Dans la recherche de la paix. Cinquième chose, il vient détruire la maladie et la mort qui détruisent notre paix. Tu veux énerver quelqu'un, dis-y, t'as un cancer. Hébreux chapitre 2 nous dit ceci, verset 14, Jésus est venu mourir, il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. Des fois, tu ne sais pas que tu es fâché contre Dieu, mais tu as quand même peur de mourir. Puis des fois, c'est aussi une voie à l'Évangile. Pourquoi tu as peur? Est-ce que tu sais que tu n'es pas obligé d'avoir peur? Sixième chose, et là, vous pouvez retenir ce mot-là, ça va toujours bien dans une discussion de salon, l'apocatastase est à nos portes. C'est quoi l'apocatastase? C'est tout simplement un mot grec que Pierre a utilisé en acte 3 qui dit « Changez donc d'attitude ou repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale, l'apocatastase dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Paul nous dira en Romains que la création souffre et attend le retour de Jésus. Il attend un rétablissement. Cette fameuse question profondément théologique que ma fille de 6 ans m'a posée cette semaine. « Papa, pourquoi les maringouins? » Il y a quelque chose dans la nature qui attend aussi la restauration. Et c'est intéressant que Pierre nous dit, il vous enverra futur le Messie à venir. Donc, cette attente qu'il y ait bien deux, non pas qu'il y a deux Messies, comme certains l'avaient pensé chez les Juifs, mais qu'il y a deux venues de cette même Messie. Et le dernier aspect, c'est que les chrétiens sont des ambassadeurs pour la paix dans ce monde. Et pas juste pour la paix, là. C'est pas le peace and love, puis on veut que tout le monde soit gentil. C'est la véritable paix, ce véritable shalom que Dieu offre à l'humanité. Mais le plus important quand même de tous ces sept aspects, c'est le fait, est-ce que tu es en paix avec Dieu? Ça peut juste venir en réalisant que je suis un terroriste, j'ai mis des bombes, puis je vais continuer d'en mettre parfois. L'apôtre Paul nous dit, je fais le bien, en fait, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Qui me délivrera de ce corps de mort? Puis il voit un espoir en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il continue au verset 4. Pour ceux qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit. Il y a une tension, il y aura toujours une tension en nous. On veut la paix, on fait la guerre. Qu'est-ce que le chrétien a de différent? C'est qu'il prie que le Seigneur Jésus nous donne à chaque jour ce shalom, cette paix. René nous a parlé de la corruption totale. Ce n'est pas qu'on est le plus méchant qu'on peut être, mais que tous les aspects de notre être sont attachés vers le péché. Mais le Seigneur Jésus, au travers le shalom, c'est la dernière partie du verset qui nous dit « car ce sont nos maladies qu'il s'est chargé ». Matthieu nous dira que ça s'est accompli dans le fait que Jésus guérissait les malades, mais ce n'est pas la seule maladie, parce que vous savez, les malades que Jésus a guéris sont morts. Les apôtres qui ont fait de grands miracles sont morts. Ça aurait été tellement pratique, là. OK, c'est qui ressuscite qui cette semaine? Encore en voir les 12, 2000 ans plus tard, pourtant, ils sont morts. Il y a un aspect du shalom qui est encore futur. Mais de la même façon, je crois qu'une des plusieurs théologiens voyaient le péché, et j'aime beaucoup l'image, voyaient le péché comme un cancer. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul qui n'a pas péché. C'est le message de la semaine dernière. Dès que tu nais, on peut t'annoncer, tu vas mourir. Puis on ne sait pas combien de temps que tu as. Le péché est un cancer qui nous gronge. Qu'est-ce que ça fait? Essentiellement de l'intérieur, Paul va nous parler de l'amertume. Si quelqu'un garde l'amertume dans sa vie, ça le détruit dans dedans. Mais le péché, c'est ça. Le péché, c'est un cancer qui vient et qui attaque toute notre vie, qui est une corruption totale. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous? Il veut nous guérir de cette maladie qu'est le péché. Quand on met notre confiance en Jésus-Christ, on débute notre rémission. On va de mieux en mieux. Mais le but de Jésus, c'est de nous amener à la rémission totale. C'est ça, la sanctification. C'est de devenir comme Jésus pour que le jour où on soit devant lui, nous serons comme il est, nous le verrons tel qu'il nous voit. Jésus nous disait ceci, et je termine avec ceci. Un arbre malade ne peut pas porter du bon fruit. Mais un arbre en santé ne peut pas faire autrement que de porter du fruit. Et ça, c'est la différence. Des fois, on met tellement d'emphase dans nos églises sur le fait qu'on est sauvé, on n'est pas sauvé par nos œuvres, qu'on dit, oh, mais moi, j'ai pas besoin d'œuvres du tout. Mais le pommier, là, c'est quand vous vous promenez dans un champ, là, ou un verger, est-ce que vous l'entendez des fois comme moi? Pop! C'est l'arbre qui se force pour faire des pommes? Non. Le problème, c'est pas, je veux dire, le pommier, il y a des pommes. Si l'arbre est malade, il n'y a soit pas de pommes, ou soit ses pommes sont dégueulasses. Mais c'est la même chose dans nos vies. Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un changement de nature, une transformation qui est opérée par Dieu et par la grâce de Dieu, je ne peux pas porter du fruit qui est bon. Mais si je suis un arbre en santé, je ne peux pas faire autrement que de porter du fruit. Et Jérémie nous donne cette image en Jérémie 17. « Malheur à l'homme qui met sa confiance dans l'homme, il ne verra jamais arriver le bonheur, il ne verra jamais arriver le shalom. Mais heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Et peu importe la saison, peu importe la sécheresse, il porte du fruit en toute saison. » Prions ensemble. Dans notre Dieu, le prophète Ésaïe nous a parlé, on aurait pu aller dans tellement de directions avec ce chapitre, mais annoncer des centaines d'années à l'avance qu'est-ce que tu viendrais faire pour nous. Que tu mourrais auprès de brigands, que tu serais enterré dans le tombeau d'un homme riche. Seigneur, tellement de choses, que tu viendrais porter nos péchés. Mais il y a ce message d'espoir qui est profondément là, qu'un jour, les chrétiens du monde seront rassemblés par toi. Ils formeront un royaume et une terre de paix et de justice sera leur pays. Un monde où, malheureusement, personne qui fait le mal ne peut se trouver. Or, nous faisons tous le mal. Mais Seigneur, c'est ton offre. Si aujourd'hui tu entends sa voix, ne ferme pas ton cœur. L'offre, elle est pour toi et pour tes enfants et pour tous ceux que le Seigneur appelle. Mets ta confiance en Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Parce que c'est tes blessures qu'il a pris sur lui. C'est tes meurtrissures qu'il s'est chargé. Afin que le châtiment qui nous donne la paix repose sur lui. Seigneur, ce matin, que tu puisses ouvrir nos vies ou toucher nos cœurs. Que tu puisses nous rappeler que ce combat contre le péché, tu l'as déjà vaincu. Que par ta grâce, on peut avancer de victoire en victoire. Que par ta grâce, on peut s'approcher de toi pour une première fois. Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui. J'aurai besoin de toi demain. Et je serai avec toi pour toute l'éternité à cause de ce que tu as fait pour moi. Qu'il soit glorifié aujourd'hui et au siècle des siècles. Amen.